James. Un portrait de femme. Chapitre 6. Isabelle Archer émettait des théories nombreuses et possédait une imagination remarquablement active. Elle avait eu la chance d'être dotée d'un esprit plus vif que la plupart des gens parmi lesquels le sort l'avait placée, de se faire une perception plus large des faits qui se produisaient autour d'elle et d'éprouver un goût très vif pour toute connaissance qui ne lui était pas familière. Elle passait, de ce fait, pour une jeune personne de profondeur extraordinaire auprès de ses contemporains et ces excellentes gens qui ne cachaient pas leur admiration pour une intelligence dont la portée leur échappait, parlaient d'Isabelle comme d'un prodige de savoir, d'une jeune fille dont on disait qu'elle avait lu les auteurs classiques dans les traductions. Sa tante paternelle, Mrs. Varian, éprouvait un respect profond pour les livres et prédisait à sa nièce la gloire des écrivains. Mrs. Varian se faisait une haute idée de la littérature, pour laquelle elle nourrissait cette estime liée au sentiment de la privation. Sa vaste demeure, remarquable par sa collection de tables de mosaïque et ses plafonds décorés, ne possédait pas de bibliothèque et ne contenait guère, en fait de livres, qu'une demi-douzaine de romans brochés sur un rayon de la chambre d'une des demoiselles Varian. Les rapports de Mrs. Varian avec la littérature se réduisaient en fait à la lecture du New York Interviewer et, comme elle le disait très judicieusement, lire l'intervieweur, c'était perdre toutefois dans la culture. Aussi s'efforçait-elle de soustraire l'intervieweur à ses filles, qu'elle était bien décidée à élever selon les bons principes, et sans leur laisser rien lire. Son impression sur les perfections d'Isabelle était d'ailleurs parfaitement illusoire. La jeune fille ne s'était jamais essayée à composer un livre, et n'enviait nullement les lauriers de l'écrivain. Elle n'avait aucun talent d'expression, et fort peu de cette conscience de soi qui fait le génie. Tout au plus admettait-elle que son entourage pouvait à juste titre la traiter en personne supérieure à la moyenne. Qu'elle le fût ou non, au surplus, on faisait bien de l'admirer si on la jugeait telle. Il lui semblait souvent que son esprit se mouvait plus rapidement que les autres, et cette constatation éveillait chez elle une impatience qui pouvait facilement se confondre avec une supériorité. Laissons entendre ici, sans plus tarder, qu'Isabelle était probablement assez encline à l'orgueil. Elle explorait souvent, avec complaisance, son domaine spirituel. Elle se contentait d'ordinaire, de preuves fragiles, pour admettre qu'elle eut raison. Elle recherchait volontiers les occasions de se rendre hommage. Cependant, elle commettait souvent des bévues, et subissait des mécomptes tels qu'un biographe soucieux de sauvegarder la dignité de son héroïne doit hésiter à les préciser. Ses idées formaient un réseau de lignes floues, qui n'avaient jamais été délimitées par le jugement de gens parlant avec autorité. En matière d'opinion, elle s'était toujours dirigée elle-même, ce qui l'avait entraînée à main des tours absurdes. De temps à autre, elle s'avisait qu'elle commettait des erreurs ridicules, et s'abandonnait alors pendant toute une semaine à une humilité passionnée. Après quoi, elle redressait la tête plus haut que jamais, car, quoi qu'elle pût tenter, elle conservait une propension indéfectible à se faire d'elle-même une opinion avantageuse. Elle considérait que c'était à cette seule condition que la vie valait d'être vécue. Il fallait faire partie de l'élite, avoir conscience de son bon équilibre. Elle ne pouvait s'empêcher de sentir que le sien était parfait. Vivre dans un royaume de lumière, de sagesse naturelle, d'impulsions heureuses, d'inspirations charmantes et durables. Il était presque aussi pernicieux de douter de soi-même que de son meilleur ami. Il fallait s'efforcer d'être son meilleur ami, partant de se procurer une société de choix. Isabelle avait une certaine hauteur d'imagination, qui lui rendait bien des services, et lui jouait aussi plus d'un tour. Elle passait le meilleur de son temps à rêver de beauté, de courage et de magnanimité. Elle formait la ferme résolution de ne voir dans le monde qu'un lieu de noblesse, de libre expansion, d'activité irrésistible. Elle eût tenu pour détestable la honte ou la peur. Elle gardait l'espoir infini de ne jamais faillir. Elle avait si vivement souffert de ces simples erreurs de sentiment, après leur découverte, qui la laissait toujours tremblante, comme si elle venait d'échapper à un piège ou à une prison étouffante, que la seule et problématique idée d'infliger un tort sensible à une autre personne lui coupait un moment le souffle. C'eût été à ses yeux la pire chose qui pût lui arriver. À tout prendre, et en y réfléchissant, elle n'avait pas de doute sur les choses mauvaises. Elle n'était pas séduite par le mal, et savait le reconnaître en le regardant en face. Le mal, c'était la mesquinerie, l'envie, le mensonge, la cruauté. Elle ignorait beaucoup des laideurs de ce monde, mais elle avait vu des femmes tromper et chercher à faire souffrir. Ce spectacle l'avait indignée, et elle eût jugé indécent de ne pas s'en révolter. Évidemment, Pareille fierté exposait aux contradictions et risquait de laisser le drapeau flotter après la capitulation de la place, trahison dont le déshonneur peut rejaillir sur le drapeau même. Mais Isabelle, qui ne connaissait guère l'artillerie dont les projectiles menacent les jeunes femmes, se flattait de ne jamais se laisser aller à de tels écarts de conduite. Sa vie serait toujours en harmonie avec l'impression la plus heureuse qu'elle pourrait conférer. Elle serait ce qu'elle semblait être, elle semblerait être ce qu'elle était. Elle allait parfois jusqu'à souhaiter de se voir quelque jour dans une situation difficile pour avoir le plaisir de se montrer aussi héroïque que l'exigeraient les circonstances. À tout prendre, avec sa mince expérience, son idéal hypertrophique, sa confiance à la fois théorique et ingénue, son humeur tour à tour impérieuse et indulgente, son mélange de curiosité et de dédain, de vivacité et d'indifférence, son désir de faire bonne figure et d'être meilleur encore, sa volonté de regarder, d'éprouver, de savoir, avec la combinaison qu'elle présentait d'un esprit délicat, prime sautier, chaleureux, et d'une nature pleine d'ardeur et de désir, elle fournirait une victime désignée à une froide critique si elle ne devait d'abord éveiller chez le lecteur un sentiment plus ardent et plus purement attentif. C'était une de ses théories favorites qu'Isabelle Archer devait s'estimer très heureuse de son indépendance et faire de ce précieux état un judicieux usage. Elle ne parlait jamais de solitude, et moins encore d'isolement. Elle eût estimé pareille plainte d'autant moins admissible que sa sœur Lily l'invitait constamment à venir habiter chez elle. Une de ses amies, dont elle avait fait la connaissance peu avant la mort de son père, offrait un si bel exemple d'activité utile qu'Isabelle se la proposait toujours en modèle. Henriette Stackpole jouissait d'un talent reconnu. Bien lancée dans le journalisme, elle retrouvait partout des citations des lettres de Washington, de Newport, des Montagnes Blanches et d'autres lieux, qu'elle adressait à l'intervieweur. Isabelle n'accordait à ses articles qu'une valeur éphémère, mais n'admirait pas moins le courage, l'énergie et la bonne humeur de son amie, qui, sans parents et sans fortune, avait adopté 3 des enfants d'une sœur veuve et infirme et payé leur mois de pension avec le produit de ses travaux littéraires. Henriette marchait à l'avant-garde du progrès et professait des opinions tranchées sur la plupart des sujets. Son secret désir était d'aller en Europe et d'écrire à l'intervieweur une série de lettres du point de vue radical, projet d'autant plus réalisable qu'elle savait à l'avance ce que seraient ses impressions et de combien de critiques la plupart des institutions européennes étaient passibles. Dès qu'elle fut informée des projets d'Isabelle, elle grilla d'envie de partir aussitôt, jugeant avec raison que ce serait chose délicieuse de faire le voyage avec elle. Mais elle fut obligée au dernier moment de différer son départ. Elle considérait Isabelle comme une créature hors ligne et avait parlé d'elle à mots couverts dans certaines de ses lettres, sans jamais d'ailleurs faire allusion à cette publicité occulte devant son amie qui aurait pu en prendre ombrage, mais ne lisait pas régulièrement l'intervieweur. Aux yeux d'Isabelle, Henriette était la preuve vivante qu'une femme pouvait se suffire à elle-même et vivre heureuse. La source de ses gains était ostensible. Même sans talent journalistique, sans cette faculté de discerner, comme le disait Henriette, ce que le public allait demander, on n'était pas obligé de conclure que l'on était dépourvu de toute vocation, de toute aptitude bienfaisante, et qu'il fallait se résigner à une existence frivole et vide. Isabelle était fermement décidée à ne pas se montrer vide. À condition d'attendre avec la patience nécessaire, elle était sûre de trouver une tâche agréable et à sa convenance. Il va de soi qu'au nombre de ses théories, notre jeune amie réservait une place à ses idées concernant le mariage. En tête de celle-ci venait la conviction qu'il était vulgaire d'y trop penser. Isabelle priait instamment le ciel de la garder de ce travers. Elle considérait qu'à moins d'exceptionnelles faiblesses, une femme devait pouvoir vivre par elle-même et qu'il lui était parfaitement possible d'être heureuse hors de la compagnie d'un esprit plus ou moins grossier de l'autre sexe. Sa prière avait été suffisamment exaucée. Quelque chose de pur et de fier qui était en elle, quelque chose qu'un soupirant éconduit doué du goût de l'analyse aurait pu qualifier de froid et de sec, l'avait préservé jusqu'à ce jour de tout excès de vanité sur le chapitre des épouseurs possibles. Elle n'avait guère vu d'hommes qui valussent de se mettre en frais, et elle souriait de l'idée que l'un d'eux pût devenir un jour l'objet de son espoir et l'occasion de sa patience. Tout au fond de son âme, et c'était le plus profond de ses sentiments, dormait la conviction qu'à l'aube de certains jours, elle pourrait se donner complètement. Mais cette idée à tout prendre était trop redoutable pour être attrayante. Les pensées d'Isabelle tournoyaient à son entour sans s'y arrêter jamais longtemps, car elle devenait vite un sujet d'effroi. Isabelle s'accusait souvent de trop penser à elle-même. On lui fait rougir à volonté en la taxant de franc égoïsme. Elle projetait toujours de se développer, de se perfectionner, d'observer ses propres progrès. Son âme lui faisait l'effet d'un jardin, lui suggérait des idées de parfums et de ramures murmurantes, de bocages ombreux et de vastes perspectives qui lui laissaient penser que l'introspection était après tout un exercice de plein air et qu'une descente aux profondeurs de son propre esprit n'avait pas d'inconvénient quand on en remontait avec une brassée de roses. Pourtant, elle se rappelait souvent qu'il existait de par le monde d'autres jardins que ceux de son âme étonnante, et qu'il y avait aussi nombre d'endroits qui n'étaient rien moins que des jardins, qui n'étaient que des sentes lépreuses et crépusculaires semées de laideur et de misère. Tandis qu'elle s'abandonnait à ce courant de curiosité parfaite, qui l'emportant depuis quelque temps l'avait amenée aux rives de la belle vieille Angleterre, et pourrait l'entraîner beaucoup plus loin encore, elle songeait avec contrition aux milliers d'êtres moins heureux qu'elle, et pendant un moment cette pensée donnait une apparence d'immodestie à la belle et pleine conscience qu'elle prenait d'elle-même. Quelle place peut-on assigner à la misère du monde dans un plan qui n'a trait qu'à son propre bien-être? Reconnaissons que cette question ne l'arrêtait jamais bien longtemps. Elle était trop jeune pour cela, trop impatiente de vivre, trop peu habituée à souffrir. Elle en revenait toujours à sa théorie, qu'une jeune fille partout tenue pour intelligente devait commencer par se faire une impression d'ensemble sur la vie. Pareille expérience s'imposait pour prévenir les impairs, et lorsqu'Isabelle l'aurait acquise, elle pourrait consacrer une attention particulière aux malheureuses conditions d'autrui. L'Angleterre fut une révélation pour elle, et elle y prit autant de plaisir qu'un enfant à Guignol. Lors de ses premiers voyages en Europe, elle n'avait vu que le continent, à travers les carreaux d'une chambre enfantine. Paris, bien plus que Londres, était la Mecque de son père, et ses fillettes étaient naturellement exclues de bien des plaisirs qu'il y prenait. D'ailleurs, ses souvenirs s'étaient estompés et affaiblis dans la mémoire d'Isabelle, et le caractère de désuétude qu'elle trouvait maintenant à tout ce qu'elle voyait gardait à ses yeux tout le charme de la nouveauté. La demeure de son oncle lui faisait l'effet d'un tableau animé. Aucun de ses raffinements n'était perdu pour elle, et la riche perfection de Garden Court lui apportait la révélation d'un monde et la satisfaction d'un besoin. Les vastes pièces basses, aux plafonds bruns et aux recoins obscurs, les profondes embrasures et les étranges fenêtres, la paisible lumière sur les sombres panneaux polis, la verdure profonde du parc qui semblait toujours se pencher sur les vitres, le sentiment enfin d'une intimité harmonieuse au cœur d'une propriété, d'un lieu où les bruits étaient merveilleusement rares, où la terre même étouffait le son des pas, où dans la tiède épaisseur de l'air tout contact était sans rudesse et toute parole sans acuité, tout cela plaisait fort à la jeune fille, et flattait chez elle un goût qui jouait un rôle considérable dans la genèse de ses émotions. Elle avait noué une amitié solide avec son oncle, et se tenait souvent près de lui quand il faisait installer son fauteuil sur la pelouse. Il passait des heures en plein air, les mains croisées, comme un génie placide et familier, dieu du foyer qui, sa tâche accomplie et son salaire reçu, tentait de s'adapter à des semaines et à des mois tout faits de jours de congé. Isabelle l'amusait, plus qu'elle ne l'imaginait elle-même. L'effet qu'elle produisait sur les gens était souvent différent de celui qu'elle supposait, et le vieillard prenait un fréquent plaisir à la faire jacasser. Ainsi qualifiait-il une conversation qui avait beaucoup du piquant propre aux jeunes américaines, plus habituées que leurs sœurs étrangères à voir faire cas de leurs propos. Comme la plupart de ses compatriotes, Isabelle s'était vue encouragée à manifester sa personnalité. On écoutait ses observations, on attendait d'elle émotions et opinions. De ses opinions, beaucoup n'offraient sans doute qu'une mince valeur. De ses émotions, beaucoup s'évaporaient aussitôt qu'exprimées. Du moins, donnait-elle à la jeune fille l'air de sentir et de penser, et prêtait-elle à ses paroles, quand elle était vraiment émue, cette vivacité que tant de gens regardaient comme un signe de supériorité. Mr. Touchett trouvait qu'elle lui rappelait sa femme à l'orée de sa 20e année. C'est parce qu'elle était fraîche et naturelle, vive de compréhension et d'élocution, toute caractéristique applicable à sa nièce, qu'il s'était épris de Mrs. Touchett. Il ne fit pourtant jamais part de ce rapprochement à la jeune fille, car si Mrs. Touchett avait un jour ressemblé à Isabelle, Isabelle n'avait rien de l'actuelle Mrs. Touchett. Le vieillard faisait montre d'une grande bonté pour sa nièce. Depuis longtemps, comme il le disait, la maison n'abritait plus de vie jeune, et notre frémissante héroïne, avec sa voix claire et ses gestes vifs, lui était agréable comme un murmure d'eau. Il s'ingéniait à lui faire plaisir et aurait aimé qu'elle lui demandât quelque chose. Pourtant, elle ne demandait rien et se contentait de poser des questions, fort nombreuses, il est vrai. Son oncle avait une grande réserve de réponses, bien que la forme des questions l'embarrassât parfois. Isabelle réclamait d'innombrables précisions sur l'Angleterre, sur la Constitution et le caractère britannique, sur l'état de la politique, les us et coutumes de la famille royale, les traditions de l'aristocratie, la façon de vivre et de penser de ses voisins, et, lorsqu'elle demandait des éclaircissements sur tous ces points, elle voulait savoir s'il corroborait les descriptions des livres. Le vieillard la considérait alors un instant, et souriait de son beau sourire net, en lissant le châle posé sur ses genoux. « Les livres, lui dit-il un jour, ma foi, je ne sais pas grand-chose de ce qui s'y trouve. C'est Ralph qu'il faut interroger sur ce point. Je me suis fait mes opinions moi-même, et j'ai puisé mes informations à la source. Je n'ai même jamais posé beaucoup de questions. Je me suis contenté de rester à ma place et de regarder. Évidemment, j'ai eu de très bonnes occasions de le faire, meilleures que celles dont peut se prévaloir une jeune fille. Je suis assez curieux par tempérament, bien que vous puissiez ne pas vous en douter à me regarder. » Mais considérez-moi tant que vous voudrez, je vous observerai de plus près encore. J'ai regardé les gens d'ici pendant plus de 35 ans, et je ne crains pas de dire qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est à tout prendre un très beau pays que l'Angleterre, plus beau peut-être que nous ne l'imaginons chez nous. Il y a bien des perfectionnements que j'aimerais y voir adoptés, bien que le besoin ne paraisse pas s'en faire beaucoup sentir ici. Quand le grand public prend conscience de la nécessité d'une chose, il s'arrange d'ordinaire à la réaliser, et jusque-là, il n'est pas très malheureux de s'en passer. Je me sens certainement plus intimement liée à ce pays que je ne l'ai cru possible au premier temps de mon séjour, peut-être parce que j'y ai rencontré un succès assez flatteur. Le fait de réussir donne naturellement une impression d'aise et de familiarité. « Croyez-vous que je me sente chez moi en Angleterre si j'y ai du succès ?» demanda Isabelle. « Cela me paraît probable, et pour ce qui est du succès, vous en aurez certainement. Les Anglais aiment beaucoup les jeunes Américaines et leur témoignent une grande amabilité. » Cependant, il ne faudra pas trop vous croire dans votre pays. « Oh, je ne suis pas si certaine que l'Angleterre me ravisse, » déclara sentencieusement Isabelle. « J'en aime bien le cadre. Ce que je ne sais pas, c'est si les gens me plairont. Oh, ce sont de braves gens, surtout pour qui les aiment. Je ne doute pas de leur bonté, mais sont-ils amusants? On ne me volera et on ne me battra pas, j'en suis sûre, mais tâcheront-ils de se rendre agréables? Voilà ce qui me plaît, je l'avoue, et ce que j'apprécie par-dessus tout. Il ne me semble pas que les jeunes filles soient très gâtées ici. Elles ne le sont pas, en tout cas, dans les romans. « Je ne puis guère parler des romans, » fit Mr. Touchett. « Je crois qu'on y trouve beaucoup plus de talent que d'exactitude. Nous avons reçu ici, un jour, une dame qui écrivait des romans. C'était une amie de Ralph qui l'avait invitée. Elle était très positive et au courant de toutes choses, bien qu'on ne pût guère se fier à sa documentation. Elle avait sans doute trop d'imagination. Elle a publié depuis lors un roman où elle traçait un portrait, je devrais plutôt dire une caricature de ma modeste personne. Je ne l'ai pas lu, mais Ralph me l'a passé, en soulignant les passages intéressants. Elle prétendait rendre ma façon de parler, mes américanismes, mon aseillement, mes notions yankees. Eh bien, rien de tout cela n'était exact, elle n'avait certainement pas bien écouté. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'elle rapporta mes propos, si cela lui faisait plaisir, mais il me déplaisait qu'elle n'eût pas pu prendre la peine de les écouter. Il est bien évident que je parle comme un Américain, je ne saurais parler comme un Hottentot. De quelque façon que je m'exprime, je me suis en tout cas fait assez bien comprendre, et je ne parle certainement pas comme le vieux gentleman du roman de cette dame. Ce n'était pas américain, on ne l'aurait jamais toléré chez nous. Je ne mentionne le fait que pour vous montrer que les romans ne sont pas toujours véridiques. Comme je n'ai pas de fille, et comme Mrs. Touchett demeure habituellement à Florence, je n'ai pas beaucoup d'occasion de voir des jeunes filles. Il me semble que dans le peuple, elles ne sont pas très bien traitées, mais je crois que dans les hautes sphères, et même jusqu'à un certain point, dans la classe moyenne, leur condition est plus heureuse. « Mon Dieu !» s'écria Isabelle, « combien y a-t-il donc de classes dans ce pays ? 50 pour le moins ? Oh, je ne les ai jamais comptées. Je ne fais pas grande attention à ces distinctions. L'avantage d'être américain, c'est de n'appartenir à aucune classe. « Je l'espère bien !» s'écria Isabelle. « Voyez-vous que l'on appartienne à une classe de la société anglaise ?» « Oh, je crois qu'il y en a d'assez agréables, surtout dans le haut de l'échelle. À mes yeux, il n'y a que deux classes, celle des gens qui me reviennent et celle des gens qui ne me reviennent pas. C'est à la première que vous appartenez, ma chère Isabelle. » « Je vous remercie, » dit vivement la jeune fille, qui semblait toujours mettre quelque sécheresse dans son acceptation des compliments, comme si elle avait voulu les écarter au plus tôt. Rien d'ailleurs n'était moins exact. Elle n'était pas du tout insensible aux compliments et redoutait seulement de laisser voir le plaisir infini qu'il lui causait. C'eût été trop se découvrir. « Les Anglais me paraissent bien traditionnalistes, » ajouta-t-elle. Tout est exactement fixé chez eux, et décidé d'avance, concéda Mr. Touchett. Ils ne laissent rien à la fantaisie de l'heure. « Je n'aime pas que les choses soient si bien arrêtées, déclara la jeune fille. Il me faut plus d'imprévus. » Son oncle parut égayé par cette affirmation. « Pour vous, en tout cas, il est réglé d'avance que vous aurez beaucoup de succès. Cela vous fera plaisir, je suppose. » « Je n'aurai aucun succès si les gens sont trop absurdement conventionnels. Moi, je ne le suis pas du tout. Je suis juste le contraire. Et cela ne leur plaira pas. »« Non, non, vous avez bien tort, protesta le vieillard. Personne ne peut dire ce qui plaira ou non aux Anglais. Ils sont très inconséquents. C'est ce qui fait leur plus grand charme. » Alors, dit Isabelle, debout devant son oncle, les mains serrées sur la ceinture de sa robe noire et les yeux errants sur la pelouse, « Alors, cela me conviendra très bien. »